France Inter.
Franceinter.com.
Bonjour à tous, aujourd'hui la vie mondaine dans l'Allemagne nazie. On ne pourra jamais en avaler autant que l'on devrait vomir. Max Liebermann, décembre 1934. Ans d'histoire. On ne pourra jamais en avaler autant que l'on devrait vomir. C'est ainsi qu'en 1934, au moment où un an après leur arrivée au pouvoir, les nazis éliminaient leurs derniers adversaires, qu'un vieux peintre juif de 84 ans, Max Liebermann, exprimait le dégoût que lui inspirait le nouveau régime. Il était un des premiers à pressentir l'horreur du nazisme, dont les responsables et ceux qui les avaient portés au pouvoir se pavanaient alors dans les cérémonies officielles ou dans les salons, là où se décidait désormais le destin de l'Allemagne. Les coulisses peu connues d'un État totalitaire, où la vie mondaine comptait beaucoup plus que ces grandes réunions publiques, où Hitler affirmait cyniquement qu'avec lui, c'était le peuple qui était désormais au pouvoir.
Depuis l'année dernière, il s'est produit en Allemagne un bouleversement historique. L'état des partis politiques est tombé. Un état du peuple est né.
Un Volksstaat ist erstanden.
Fabrice Almeida, bonjour.
Bonjour.
Alors tout le monde connaît ces grandes manifestations par lesquelles la propagande nazie voulait démontrer au monde entier que Hitler était populaire, mais on connaît moins ce qui se passait dans les coulisses et que vous rappelez dans un livre très documenté publié chez Perrin, La vie mondaine sous le nazisme. Et à vous lire, on se rend compte que c'est dans les salons, dans les dîners en ville, dans les cérémonies officielles, dans les ambassades aussi, dites-vous, que tout se décidait beaucoup plus justement que dans ces grands congrès comme Nuremberg.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de laboratoire un peu secret où se retrouvent des élites très différentes et qui, en quelque sorte, à force de se fréquenter, finissent par avoir un programme commun de gouvernement avant même l'avènement du nazisme. Et évidemment, pendant le nazisme, elles vont le mettre en œuvre.
Et alors des cérémonies, des réunions, ou des dîners en ville, des salons où l'on voit, c'est la photo de couverture de votre livre, où l'on voit les dirigeants allemands, en l'occurrence Goebbels et Hitler, non pas en uniforme, hein, comme dans beaucoup de documentaires ou de films justement sur le congrès de Nuremberg, mais ils sont en habit avec des nœuds papillons, ils sont souriants. Au fond, c'est le moyen de montrer aussi une façade plus plaisante, entre guillemets, que ce qui se passait derrière tout ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, de notre point de vue, si on se replace de notre point de vue, on a tendance à regarder de plus en plus le nazisme autour de ce qui a fait sa spécificité la plus forte, c'est-à-dire la violence, et en particulier l'Holocauste, le génocide. Mais en même temps, dans l'époque, il faut bien se rappeler que c'est une société qui prétend produire de la jouissance, produire des ressources, produire de la richesse. Et donc, tous ceux qui sont dans ce système-là vont effectivement vivre le nazisme avec un grand plaisir, au sens fort du terme, et avec le sentiment qu'ils reçoivent des bénéfices. Ce qui peut expliquer, ce qu'on a du mal à comprendre en France, ce qui peut expliquer qu'il va y avoir une nostalgie après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne qui va perdurer, avec notamment ceux qui auront été très insérés dans ces cercles là, qui considéreront qu'au fond c'est la faute des autres si l'Allemagne est tombée, mais que finalement le programme de Hitler était bon.
Alors ça, évidemment, c'est des nostalgiques. Bon, il y en a heureusement plus beaucoup. Alors ça, c'est les salons, Hitler dans les salons, les dirigeants dans les grandes cérémonies officielles. C'est parce que, vous le dites, au fond, ce n'est pas seulement par la violence, mais aussi par son pouvoir de séduction, entre guillemets, qu'il a pu accéder au pouvoir. D'abord, on le sait, dans les années 20, dans la rue, et puis aussi, justement, dans les salons de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, où Hitler, qui avait déjà commencé à faire parler de lui, était introduit au début des années 1920, quand son parti comptait moins d'un millier de membres.
Baronne, nous ne parlons jamais aussi ouvertement de politique qu'en Amérique.
C'est tout ce dont nous parlons ici.
Je vous assure, Baron, que ça marche en Amérique.
Ce n'est pas du tout pareil, Ernst, et vous le savez. Les Allemands ont besoin d'un chef. De préférence, un homme sous notre contrôle. Pas forcément intelligent, mais malléable. Et célibataire. Pour que les femmes veuillent bien voter pour lui.
Bien parlé, capitaine Göring.
Cette personne que vous avez invitée ce soir, Herr Amstangel, à l'oreille des ouvriers, non?
Oui, de quelques-uns, mais de presque toute la classe moyenne, ce qui fait bien mieux notre affaire. Je pense que vous le trouverez assez persuasif. C'est pour le moment une sorte de diamant brut. Et quand je dis brut...
Excusez-moi, je vous en prie.
Herr Hitler, je vous en prie.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Ein Freund, ein guter Freund, un bon copain, c'est une chanson allemande des années 20 par les Comédiens Harmonistes, un groupe de chanteurs allemands dont certains devront plus tard s'exiler parce que ils étaient juifs. Mais alors dans les années 20, Hitler n'était pas encore au pouvoir et on vient de l'entendre dans cet extrait de film. Il arrive dans un milieu dont il n'est pas du tout familier, hein, la bourgeoisie, les salons. Lui, il est le fils d'un petit fonctionnaire autrichien. Il sort à peine des tranchées. Il s'exprime dans les rues, mais c'est pas un salonnard.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même une généralisation, disons, de l'éducation bourgeoise. Et son père n'était pas un si petit fonctionnaire que ça. C'est quand même un chef de bureau des douanes. Donc ça correspondrait, disons, à une hiérarchie moyenne haute dans l'administration autrichienne. Donc il n'est pas effectivement de la haute bourgeoisie ni de l'aristocratie, mais il sait se tenir. Mais là où l'archive que vous avez utilisée est extrêmement intéressante, c'est qu'on voit qu'avec Hitler, il y a une nouvelle mode dans les salons, où justement dans ce moment-là, dans cette après-guerre,
les années 20, hein, nous sommes avant l'arrivée au pouvoir.
C'est l'idée qu'au fond, il faut qu'on ait les gens qui font l'actualité, c'est-à-dire les gens qui sont dans les pages de journaux. Or, il a un journal, or, on parle de lui, il fait scandale, donc il est intéressant pour ça, et il fait rentrer un parfum d'aventure dans les salons. Il y a justement une des personnes qui pourrait être dans ces dîners, Amstangel, Ernst, le fameux Ernst de l'extrait, Ernst Amstangel qui raconte qu'il rentre dans le salon de Madame Bechstein, qui est une de grandes familles munichoises, facteur de piano hein, depuis le 19e siècle. Il rentre dans ce salon, il enlève son revolver et il le donne au vestiaire. Et quand on, pour nous, ça peut paraître presque folklorique, mais pour l'époque, c'est vraiment l'idée qu'on a affaire à quelqu'un qui prend en main les affaires de la République et donc qui va agir.
Et ça, ça plaît à cette bourgeoisie qui a quand même joué un grand rôle. Tous les grands capitaines d'industrie, parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir aussi, notamment au début des années 20, et cette crise dont souffre l'Allemagne, ce chômage absolument considérable, d'ailleurs avec des chômeurs que va recruter le parti nazi. Au début, ça les rassure et on va les voir financer le parti de Hitler. Presque tous les grands capitaines d'industrie, même Thyssen qui plus tard, si je puis dire, claquera la porte, ont financé le parti.
Oui, ils y viennent progressivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a montré qu'il était capable d'être actif, bon, il va y avoir cet épisode qui va le conduire à passer un an en prison, mais une fois qu'il a montré qu'il a cette capacité-là à faire l'actualité et en même temps à être drôle, parce qu'avoir un bon copain, Hitler est un bon camarade dans les années 20. Il va, avec le passage au pouvoir et dans le vieillissement, il va devenir de plus en plus insupportable. Mais au début, Ernst Ernst Stangl nous raconte qu'il fait des imitations, qu'il sait changer de voix, il fait des blagues, il est assez comique et beaucoup de femmes l'aiment comme, disons, quelqu'un qui sait se tenir et qui a beaucoup d'humour, quoi. Il fait rire aussi.
C'est peu connu. Alors, également, il séduit, ce qui est moins évident, dites-vous, c'est il séduit l'aristocratie. On a souvent dit, Fabrice d'Almeida, que l'aristocratie était restée très rétive, qu'elle n'aimait pas ce rustre qui s'introduisait justement dans les salons et puis qui, à plus forte raison, va arriver au pouvoir. Or, il semble à vous lire que cette aristocratie, elle a été plutôt complice.
Oui, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'image d'Épinal qui voudrait qu'on fonde des élites traditionnelles, en quelque sorte, l'Église, l'aristocratie, l'armée, qui se seraient opposées au nazisme. Or, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, des fractions, pas toutes, des fractions importantes de ces mouvements-là sont dans le mouvement nazi, vont le façonner, vont contribuer à lui donner sa crédibilité et vont finalement rallier l'ensemble de ces élites traditionnelles au régime et vont les faire entrer véritablement dans le nazisme. Et dans l'aristocratie, quand même, c'est un travail très récent de Stéphane Malinowski, un historien allemand qui a été soutenu en 2003, une thèse monumentale, qui montre comment ça glisse et comment on rentre dans le nazisme et comment on va même pousser les institutions nazies, je parle vraiment de la SS, à en quelque sorte s'aristocratiser. On va créer par exemple, en 1932, les SS à cheval, les Reiter SS, pour pouvoir justement attirer les jeunes de la noblesse et des clubs d'hippisme.
Alors cette aristocratie, cette bourgeoisie va initier Hitler à une vie mondaine qui va continuer après son arrivée au pouvoir en 1933. À ceci près, c'est que les juifs sont séparés, écartés de la haute société par les lois de Nuremberg de 1935. Hermann Göring.
Et citoyen du Reich, le ressortissant de sang allemand ou apparenté, qui par son comportement montre sa volonté et sa capacité à servir fidèlement le Reich et le peuple. Les unions entre juifs et ressortissants de sang allemand ou apparenté sont interdites.
Et c'était Göring commentant en 1935 ces lois de Nuremberg qui excluaient les juifs de la nouvelle société allemande, qui leur interdisait de se marier avec des Allemands, entre guillemets, de souche. Hein. C'était terrible, c'est ça. Alors, il y a eu ça. Comment est-ce que les cercles dirigeants, qui comptaient aussi de nombreux juifs à l'époque de la République de Weimar, ont-ils pris cela? Vous le dites, c'est avec un détachement absolument incroyable.
Moi, je dirais que c'est plus qu'un détachement. Il y a à la fois de l'insouciance, mais il y a aussi de l'intérêt. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir la vitesse à laquelle cette idée de l'exclusion des Juifs prend place après le 30 janvier 33, c'est-à-dire après la nomination d'Hitler comme chancelier. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, par exemple, que des clubs de tennis, comme le Rot-Weiss Club de Berlin, à partir de mars 1933, donc vous voyez, à peine 3 mois après l'arrivée au pouvoir, commencent à dire aux membres juifs qu'il ferait mieux de ne pas fréquenter le club. Et ils vont même décider, la Fédération allemande de tennis va décider en juin 1933 qu'elle ne sélectionnera plus de joueurs juifs. Il faut savoir que le meilleur joueur allemand de l'époque, il s'appelle Danny Prenn, et c'est grâce à lui que l'Allemagne a gagné la Coupe Davis face à l'Angleterre, face à Bunny Austin, qui était le grand champion de l'époque. Et donc Prenn ne sera plus sélectionné en équipe d'Allemagne au point qu'il va être obligé d'immigrer et d'aller en Grande-Bretagne. Le club de golf de Berlin, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très très rapide dans ces élites. Il y a l'idée qu'on doit mettre la césure avec ceux qu'on considère comme les facteurs de décadence de l'Allemagne. Et évidemment, ça va s'amplifier au fil des années. Et ce qui vraiment frappe, c'est que quand on lit les journaux de l'époque, les journaux, je parle des mémoires ou de ce que les gens peuvent écrire comme journaux intimes, on est frappé de voir qu'ils ne réagissent pas à ça. C'est un problème assez secondaire. Sauf une personne, évidemment, une chroniqueuse mondaine, Bella Fromm, qui est journaliste, juive, dont la famille a servi les rois de Bavière et qui va se retrouver après 1933-1935 à ne plus pouvoir travailler pour des journaux allemands et à devoir travailler pour des journaux américains, des journaux autrichiens, parce que les journalistes sont exclus du travail, sont exclus de l'emploi par les lois raciales.
Alors ces lois raciales, ce sont des lois qui excluent d'abord les juifs et puis la politique antisémite va aller de plus en plus loin. Il va y avoir des pogroms, cette fameuse nuit de cristal de 1938 où là aussi la société allemande, il faut bien le dire, et la haute société en particulier est restée très passive. Et puis plus tard, beaucoup de juifs évidemment quitteront l'Allemagne et puis beaucoup plus tard il y aura les déportations et bon, très peu de juifs qui restent en Allemagne, mais bien sûr en territoires occupés. Et là, on peut se demander, on se demande toujours, est-ce que ces gens-là savaient ? Vous citez une anecdote assez extraordinaire, c'est la femme de Baldur von Schirach, qui était le chef des jeunesses hitlériennes, et qui brusquement s'aperçoit que dans sa rue, il y a des cris, une femme juive ou plusieurs femmes juives sont enlevées. Évidemment, on se doute de leur destination. Elle se tourne vers son mari, qui est un ministre, qui est un personnage important du Troisième Reich, et elle dit, est-ce que Hitler sait ?
Oui, c'est une anecdote qui a fait mouche, puisque c'est publié dans ses mémoires. Hein. Elle publie ça un peu plus tard, c'est en 1970. Et la scène qu'elle décrit, elle se passe en 1943. Donc ça veut dire relativement tard hein, par rapport au processus. Et son mari lui dit, va donc demander à Adolf. Ouais. Va donc lui demander. Alors elle y va. Elle y va, elle lui pose la question. Et là, elle raconte que Hitler, tout d'un coup, se ferme et lui renvoie très brutalement qu'elle ne devrait avoir aucune commisération pour les Juifs. Elle est une des rares à considérer que Hitler joue une place centrale dans l'extermination. Je parle une des rares dans ceux qui écrivent après. Parce que très souvent, les anciens nazis, quand ils vont écrire en 1946, 50, etc., vont avoir tendance à dire que ce n'est pas la faute de Hitler, mais c'est la faute de ceux qu'on n'a pas retrouvés, notamment de Martin Bormann, qui a disparu. Donc c'est sur lui qu'on fait peser le maximum de responsabilité et sur Himmler qui s'est suicidé.
En tout cas, c'est une autre image évidemment que veulent donner d'eux les dirigeants nazis devant les caméras et notamment à l'occasion de grandes cérémonies ou de fêtes comme celle de la Saint-Nicolas où Hermann Göring jouait en 1935 les papas gâteaux en offrant des jouets aux enfants.
Qu'est-ce que tu as eu ? Un avion ? Tu veux être pilote ? C'est le bon tonton Göring qui vous parle. Nous exprimons au Führer notre gratitude et notre affection en nous écriant « Notre Führer bien-aimé ».
C'était Göring en 1935, jour de la Saint-Nicolas, le numéro 2 du régime. Hein, Göring qui va jouer un grand rôle dans tout le cérémonial, les rituels, la vie mondaine sous le nazisme, vous le rappelez, Fabrice d'Almeida. Et puis alors, où il y a des fêtes, beaucoup de fêtes, une très importante, c'est justement l'anniversaire de Hitler.
Oui, l'anniversaire de Hitler,
c'est
le 20 avril.
C'est autant de faste qu'en Russie, l'anniversaire de Staline.
Hein. Oh oui, et ça va s'amplifier. Au fur et à mesure que le régime s'installe et dure, évidemment, ça devient la plus grande fête. Donc en 1939, c'est son 50e anniversaire, ça va être phénoménal. On invite des gens du monde entier, on va faire un des plus grands défilés militaires de l'époque, le plus impressionnant. On invite évidemment les chefs d'état-major des pays voisins, de manière à les impressionner, et on va les soigner aux petits oignons. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que ce système de la vie mondaine, tel que je l'ai qualifié, c'est aussi un système de la séduction à l'égard des dirigeants aussi étrangers, c'est-à-dire des chefs d'État, des diplomates. Christian de Danemark va venir en visite, le gouvernement de Suède vient en visite officielle, ils sont reçus, on soigne ça. On travaille le détail avec un sens du pointillisme pratiquement qui est très, j'allais dire, symptomatique de l'administration hitlérienne. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on veut tout contrôler jusqu'au plus petit détail. Et ça, c'est ce qui leur permet d'avoir une grande efficacité.
Alors, vous parlez de l'administration. Il y a un organisme dont vous parlez beaucoup, alors que c'est vrai qu'on ne connaît ni le nom de ses responsables la plupart du temps, ni même l'existence de cette espèce de service personnel qu'on trouve d'ailleurs autour de plusieurs ministres, mais notamment de Hitler, qui s'appelle l'adjudantour, avec des gens qui sont chargés de trier tous ceux qui doivent aller dans telle réunion, dans telle cérémonie officielle, dans tel vernissage, dans telle première d'opéra, des cartes de vœux. Et c'est l'adjudantour.
Voilà, alors effectivement, peut-être la spécificité, parce que des invitations, de la mondanité, il y en a sous tout le régime. Mais sous le nazisme, c'est véritablement mis sous l'état d'une bureaucratie. C'est-à-dire que Hitler a une administration comme chef de la République. Il a une administration comme chancelier. Il est président, il est chancelier, il a une administration comme chef du parti nazi. Et il a une administration comme Führer. Et en plus de ces quatre administrations-là, il a sa propre adjudantour personnel, ses propres services personnels, 12 personnes à plein temps, et pas n'importe qui. Des gens qui vont finir avec les plus hauts grades dans la SS, les plus hauts grades dans l'armée, donc des gens très hautement qualifiés. Pareil pour Göring. Pareil pour Himmler. Et ces gens-là, leur tâche, quand on regarde les archives, c'est pour l'essentiel d'entretenir la clientèle personnelle, les relations personnelles du chef avec le public très large. Alors parfois des élites, pour les invitations à dîner, réception d'actrices, réception d'acteurs, bal, 2000 personnes le 11 janvier 1936, invitées par Göring pour un bal de charité. On paye 50 Deutschmark l'invitation, c'est-à-dire un quart du salaire mensuel d'un ouvrier. Il faut bien penser à ces proportions-là, donc pour une soirée. Et donc, il y a cette dimension-là de travailler l'opinion grâce à ces administrations parallèles, inédites. On n'en voit nulle part ailleurs à l'époque.
C'est une vie de cour que vous me décrivez, Fabrice d'Almeida. D'ailleurs, vous comparez ça au fonctionnement de la cour de Versailles sous Louis XIV.
Oui, alors je dis, c'est Louis XIV. Voilà, c'est Louis XIV sans Versailles. Ouais. Sans Versailles. C'est-à-dire que toutes les élites allemandes ne sont pas concentrées à Berlin. Elles sont distribuées dans l'ensemble de l'Allemagne. Par contre, ce qu'il y a de différent par rapport à Louis XIV, c'est que Louis XIV tient tout dans sa main, alors que ce phénomène de la mondanité, c'est-à-dire de gérer sa petite clientèle, redescend dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que le petit chef de cercle, le Kreisleiter, vous voyez, l'équivalent d'un président de conseil général, il entretient autour de lui toute une réseau de cours pour distribuer des ressources, pour obtenir des sympathies, pour obtenir des soutiens, pour faire passer les mots d'ordre. Parce que la mondanité, c'est ça, hein, c'est la fluidité des relations personnelles qui permet de transmettre des messages politiques, de tenir les gens en leur donnant de l'argent, en leur donnant des propriétés, en leur donnant des moyens et en même temps d'obtenir leur assentiment pour la conduite d'une politique parfois dure contre certaines couches, les juifs, les asociaux, ce qu'on va appeler comme ça, les tziganes, les tzigoiner, finiront par être des asociaux, et puis en même temps une politique très dure militairement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette Allemagne-là est une Allemagne conquérante, impérialiste.
Et une Allemagne qui s'efforce justement de rassurer les puissances étrangères avec, ça aussi, ça compte dans la vie mondaine sous le nazisme, avec une diplomatie très active et qui s'efforce, avec son ministre des Affaires étrangères Ribbentrop, de rassurer les voisins de l'Allemagne sur leur avenir.
Après avoir déjeuné à l'hôtel Matignon, où il a été l'invité de M. Daladier, président du Conseil, M. von Ribbentrop se rend au ministère des Affaires étrangères où, dans le salon de l'horloge, est signée la déclaration franco-allemande. M. von Ribbentrop parle de l'acte qui vient d'être signé.
La France et l'Allemagne, tenant compte de la base solide que constitue l'amitié qui nous lie à d'autres États, sont tombés d'accord pour mettre fin à leur conflit de frontières séculaires et en reconnaissant réciproquement leur territoire pour faciliter la voie à une reconnaissance et à une considération réciproque de leurs intérêts vitaux nationaux.
Le ministre des Affaires étrangères allemand, Ribbentrop, en France, en français, et nous sommes à 9 mois du déclenchement de la guerre, c'est quand même extraordinaire, c'est ça le rôle de la diplomatie, des ambassades, des ambassadeurs, des réunions, des soirées dans ces ambassades, c'est rassurer au fond les puissances sur la nature et les ambitions du régime, Fabrice d'Almeida.
Oui, je dirais que c'est la formidable duplicité de la diplomatie du Troisième Reich, puisqu'au fond, le prédécesseur de von Ribbentrop, c'est Constantin von Neurath, qui est ministre pratiquement de 1930 à 1938, ministre des Affaires étrangères. Eh bien, cet homme-là, c'est, je dirais, l'apparence du classicisme. Mais en même temps, on voit bien qu'il a dans son ministère déjà un bureau pour Joachim von Ribbentrop, qui mène la diplomatie particulière de Hitler, qui en 1938 devient ministre, et qui feint à chaque fois de dire que le réarmement allemand, il est légitime. On ne peut pas empêcher l'Allemagne d'être un pays comme les autres. Qui utilise des réseaux de noblesse, d'aristocrates britanniques, pour à chaque fois, comme ça, donner l'impression que tout est pareil. Et même au moment de Munich. Munich, pourquoi elle prend compromis? Parce que c'est l'idée que c'est normal que les Allemands se retrouvent entre eux.
On s'efforce aussi de rassurer, enfin on ne va pas les rassurer, des positions sympathisantes, je pense à tous ceux qu'on invite, que les Allemands invitent, vous le rappelez dans votre livre aussi, Fabrice d'Almeida, pour assister à ces espèces de grands messes nazies, le congrès de Nuremberg, où on verra de futurs collabos comme Brasillac ou Rebattet se trouver merveilleux ces grandes messes avec, c'est je crois, Brasillac qui disait ces cathédrales de lumière, c'est les projecteurs, le fascisme immense et rouge. Il y a eu vraiment un travail de relations publiques, entre guillemets, qui est considérable, qui a été fait. Alors le rêve étant évidemment pour tout le monde, pour les étrangers, d'aller à Berchtesgaden. Berchtesgaden, c'était vraiment la résidence privée de Hitler, où là, un très petit nombre seulement d'Allemands avaient accès. On le découvrira après la guerre, lorsque les Alliés seront dans les ruines de Berchtesgaden en 1945.
Dernièrement, en Allemagne, le service des recherches de l'armée américaine découvrait les films privés du Führer tournés sur son ordre à Berchtesgaden. Et, loin des parades, un homme apparaît. Un homme qui avait de bons amis comme Himmler, brillant causeur et gai compagnon, comme Goebbels, invité souriant et affable. Un homme qui ne dédaignait pas d'esquisser un pas de danse devant eux. Un homme qui prenait le thé, parfois, avec l'ironique von Ribbentrop. Un homme comme tous les autres. Un homme qui aimait les enfants, qui les prenait sur ses genoux et leur racontait des histoires. Un homme qui avait une femme aussi. Une femme jeune et souriante dans son costume tyrolien.
Ah, Berchtesgaden, c'était vraiment le Graal, si je puis dire, des mondains sous le Troisième Reich. Hein. C'était, il fallait pouvoir y aller. Et alors, cela pendant que, évidemment, commençaient les persécutions, les massacres. C'est assez extraordinaire, cet archive que l'on vient d'entendre, raconté sur le ton de l'humour.
Très juste.
Et,
hein.
Et au lendemain d'une guerre pendant laquelle les mondanités ont continué. Hein. C'est, vous appelez ça la Seconde Guerre mondaine. Ça n'a pas arrêté, en fait, malgré les bombardements.
Je dirais même que ça s'amplifie jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire jusqu'en 42-43, ça s'amplifie. Le sentiment que j'ai, c'est que ces élites allemandes, elles adhèrent tant qu'elles reçoivent, tant qu'elles peuvent profiter, tant qu'il y a du plaisir, tant qu'il y a de la fête, tant qu'elles sont en quelque sorte dans le banquet, tandis que se commet le sacrifice, le crime. Eh bien, au moment où ça va se retourner, c'est 1943, au début de l'année 43, je dirais presque avant l'anniversaire d'Hitler, avant le 20 avril. Pourquoi ? Parce qu'il y a Stalingrad, parce que sur le front de l'Est, ça va très mal, parce qu'il y a les bombardements qui s'amplifient. Et donc, l'indice que j'ai trouvé, moi, c'est des gens qui disent « Je ne peux plus répondre au nombre de faire-part de décès que je reçois. J'en reçois tellement. » Ursula von Kardoff, une de ces femmes, plutôt anti-nazie d'ailleurs, qui se trouve à Berlin à l'époque, elle dit « Je ne peux plus, j'en reçois pratiquement 60 par semaine. Je ne peux pas passer mon temps à ne faire que ça. » Et elle le note dans son journal intime. Et là, l'opinion se retourne. Et c'est là, véritablement, que le rôle d'élite traditionnelle, par exemple, comme l'armée, va jouer un rôle important dans la reconstruction d'une résistance, d'une opposition à Hitler, qui va conduire à l'attentat du 20 juillet 1944, qui est un échec, mais qui va avoir des résonances fortes dans la société mondaine, parce que là, pour le coup, ils vont avoir le sentiment de la terreur. Ils voulaient s'écarter. Ils pensaient pouvoir s'éloigner d'Hitler, comme ils l'avaient construit. Hein. Ils pensaient pouvoir lui retirer son pouvoir, et ils se rendent compte que non, c'est trop tard. Et là, ils vivent véritablement la terreur la plus forte que le nazisme est capable de déployer.
Et en même temps, on va voir petit à petit s'éloigner, prendre leur distance. Ceux qui en ont été vraiment les dirigeants principaux, les assassins, dans le cas de Göring ou de Himmler et de CSS, qui commencent à le lâcher au moment où Hitler se retrouve coincé dans son bunker, où là encore, c'est extraordinaire à la fin, mais ça a un côté fin de règne absolument stupéfiant, on l'a vu dans un film qui s'appelle La Chute, où on continue de faire la fête, de boire du champagne. C'est assez étonnant quand même.
Je dirais que c'est même effrayant, parce que et ça montre bien ce côté d'une vie mondaine qui se resserre. C'est-à-dire, à mesure que les gens fuient, il y a de moins en moins de monde, donc on peut se retrouver dans des espaces de plus en plus restreints, mais avec toujours le maximum de ressources par rapport à l'époque. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y aura jamais de manque de champagne dans le bunker. C'est-à-dire que même quand il se suicide, quand on apprend la nouvelle du suicide le 30 avril, eh bien on sait qu'il reste encore des bouteilles. Et il y a encore des gens comme Bormann qui continuent à se saouler dans le bunker et qui vont sortir à moitié sous d'ailleurs et qui vont mourir dans un tir d'obus. Donc il y a véritablement là, je dirais, le resserrement de la vie mondaine, une chute, un effondrement du régime. Est-ce que c'est la fin de la vie mondaine ? Non. Elle va continuer. En revanche, ce à quoi elle avait servi pour le Troisième Reich, c'est-à-dire construire une espèce de conscience collective liquidatrice et conquérante, oui, cela s'effondre en Allemagne.
C'est une leçon terrible, au fond, cette espèce. Enfin, je dis, quand je regarde la couverture de votre livre et qu'on s'imagine de derrière les deux hommes qu'on y voit en frac avec des nœuds papillons, Goebbels et Hitler, il y avait Auschwitz.
Oui, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a vraiment le côté du banquet. Et d'un côté, mais le banquet participe à la même cérémonie que le sacrifice, que le crime qu'on est en train de commettre. Et ça me semblait important de donner les contours de ce banquet pour qu'on comprenne pourquoi le crime s'était commis.
Ben, vous le faites très bien dans votre livre « La vie mondaine sous le nazisme » publié chez Perrin et signé donc par mon invité d'aujourd'hui, Fabrice Dalméda. Lire également « Les comtesses de la Gestapo » de Cyril Eder aux éditions Grasset. Ce sont ces espionnes dont vous parlez aussi dans votre livre qui allaient renseigner la Gestapo après avoir été dans les salons. Et
puis alors un livre aussi sur l'envers du décor dont nous venons de parler, Sonderkommando dans l'enfer des chambres à gaz de Shlomo Venezia, préfacé par Simone Veil et publié aux éditions Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Hitler, la naissance du mal de Christian Duguay, disponible en DVD aux éditions TF1 Vidéo, ainsi que deux archives pâtées de 1938 et 1947, issues du journal de votre année et disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Riotor, Michel Bézikian, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'Inquisition.